enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce soir, nous allons parler du Saint-Esprit parce que tout à l'heure, nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. Pour les personnes qui ont été baptisées, mais aussi tous ceux qui le désirent, qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, ou dans toute sa plénitude, ou ceux encore qui veulent recevoir un renouvellement dans leur vie spirituelle. Et ce soir, nous voulons nous réjouir de la présence du Saint-Esprit parmi nous. Est-ce que vous réjouissez? Est-ce que vous réjouissez de voir les âmes sauvées? C'est quelque chose d'important, frères et sœurs. Nous, en tant que bergers, en tant que pasteurs de l'Église, nous nous réjouissons pour tous les baptêmes que nous voyons. Et nous nous réjouissons surtout de voir que l'Esprit de Dieu, eh bien, bouscule les gens en ce moment. Et il me semble à moi que les choses vont de plus en plus vite. Dans le domaine spirituel, avec les gens qui se tournent vers le Seigneur, mais aussi dans le monde, les choses vont très vite. Les choses se dégradent très très vite. Et si elles se dégradent très vite, c'est parce que Satan est à l'œuvre. Et Satan se déchaîne, et vous savez pourquoi il se déchaîne? Parce qu'il sait que bientôt son compte est bon. Je dis pas ça avec légèreté, parce que je sais qu'il est virulent, et il fera tout, absolument tout, pour nous arrêter dans notre élan. Il essayera de nous bloquer les uns et les autres par différents moyens, par la maladie, par des querelles, par toutes sortes de choses. Il empêchera, il cherchera à nous arrêter dans la marche. Mais ne nous laissons pas arrêter dans la marche. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il s'est passé quelque chose de particulier à Jérusalem. C'était un jour de fête, il y avait beaucoup de monde à Jérusalem à ce moment-là. Et il y a eu cet événement que je passe pour ne pas être trop long, on veut laisser du temps ce soir à la prière. Il y a eu cet événement extraordinaire où des langues de feu sont descendues sur les apôtres, sur les disciples. Ils étaient 120 réunis dans la chambre. Et puis il y a eu un bruit, un vent impétueux, nous dit la parole de Dieu. Et il y a eu un bruit tel que les gens de Jérusalem sont venus vers le lieu, vers le cénacle, vers cet endroit où les disciples étaient réunis. Et ils ont entendu un phénomène bizarre, des gens qui parlaient en langue et qui parlaient dans des langues qu'ils reconnaissaient. Certains juifs venaient de pays étrangers, ils reconnaissaient que ces Galiléens qui étaient là réunis, des gens qui n'avaient pas de culture, qui n'avaient pas fait de hautes études, parlaient leur langue parfaitement. Alors pour certaines personnes, eh bien, ce qui se passait là était un phénomène inexplicable. Alors quand on ne peut pas expliquer les choses, on cherche des excuses et où on cherche des explications. Certains disaient, mais ils sont sous, ils ont bu, mais il n'était que 9h du matin. Donc, et d'autres, au contraire, étaient percutés. Et c'est là que Pierre, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, se lève et commence à prendre la parole. Et lorsqu'on lit le discours de Pierre, je ne vais pas vous lire tout le discours de Pierre dans le livre des Actes au chapitre 2, mais lorsqu'on entend le discours de Pierre, on se rend compte que Pierre n'a pas pris de pincettes pour parler aux Juifs. Il aurait pu se faire tout petit, parce qu'il venait de vivre des événements graves, il venait de vivre la crucifixion de Jésus, et je pense que les disciples vivaient certainement dans la crainte de voir eux aussi souffrir, soit d'emprisonnement, soit de torture, soit carrément de crucifixion. Et là, eh bien, Pierre est en train, avec hardiesse, de rappeler au peuple juif que tout ce qui se passait là était déjà prédit par les prophètes et que c'était un événement tout à fait normal. Les prophètes, c'était l'accomplissement des prophéties. les prophètes annoncent clairement que quelle sera l'œuvre du Saint-Esprit et nous avertissent qu'il sera répandu sur tout Israël et au-delà même d'Israël. Ézéchiel 36 en parlait, Ésaïe en parlait aussi, et avec beaucoup d'assurance, Pierre bouscule les Juifs en leur disant même que, en leur parlant de Jésus qu'ils ont crucifié, il les accuse même d'avoir crucifié Jésus. Quelle hardiesse! Les Juifs auraient pu se mettre en colère. Mais lisons ensemble ce qui se passe au verset 37 du livre des Actes, au chapitre 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Les gens qui étaient là, qui écoutaient Pierre, ils eurent leur cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, mais que ferons-nous ? Que devons-nous faire maintenant ? Mais qu'est-ce qu'il va advenir de nous ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, c'est-à-dire qu'il les invitait, il les suppliait, il les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» C'est le même message que Dieu nous donne aujourd'hui. « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ne nous habituons pas à ce qui se passe autour de nous. Ne nous habituons pas à la pornographie. Non, ne nous disons pas « c'est pas grave, de toute façon tout le monde regarde ». Non, sauvez-vous de cette génération perverse. Et la Bible me dit au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Est-ce que vous imaginez 3000 baptêmes? C'est extraordinaire. Je pense que les 120 qui étaient là, les 120 disciples, étaient tous au boulot, en train de baptiser. Et je ne sais pas où c'est qu'ils les ont baptisés à Jérusalem, peut-être dans la piscine de Bethesda ou ailleurs, peu importe. Ce jour-là, 3000 personnes se sont fait baptiser. Est-ce que vous pensez qu'un jour nous pouvons vivre une dimension pareille? Moi, je le crois et je prie dans ce sens-là. Je prie dans ce sens-là. Je prie pour que le souffle du Saint-Esprit bouscule tous les Mulhousiens et environ, Colmariens, Belfortins et tout ce que vous voulez. Qu'on soit obligé d'organiser des baptêmes chaque semaine. Est-ce que vous avez envie de ça? Vous avez envie de ça? Parfois, je me demande si on a vraiment envie de ça. Je vais vous dire pourquoi. Quand on a des baptêmes, le dimanche après-midi, alors que le matin, on est environ 2000 personnes, on se retrouve à 200, 250 personnes. Je me dis, mais Seigneur, quand quelqu'un se fait baptiser, c'est un événement extraordinaire. C'est pas un événement bénin. Moi, je me sens concerné quand quelqu'un se fait baptiser. C'est un événement essentiel dans la vie d'une personne. C'est un nouveau départ pour la personne. Le Saint-Esprit viendra visiter cette personne. Quelle est la place du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne rajoute rien à l'œuvre de Jésus. Comme Christ ne disait et ne faisait rien de lui-même, Christ faisait tout ce que son Père lui disait de faire. De même, le Saint-Esprit ne rajoute rien à la parole de Dieu. Il fait, il accomplit ce que Dieu et Jésus lui disent de faire. C'est une personne à part entière. Dans le livre de Jean, au chapitre 13 et au verset 13, il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père A est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Qui peut recevoir le Saint-Esprit? Qui peut recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est promis à tous ceux qui le demandent, à ceux qui le demandent, et à tous ceux qui obéissent au Seigneur. C'est la parole de Dieu qui nous le dit dans le livre des Actes au chapitre 5, verset 32. C'est un don qui se reçoit par la foi, mais il faut le chercher, il faut le demander. Celui qui le veut, le recevra. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça si on ne le demande pas. Quand j'étais jeune, converti, lorsque je me suis fait baptiser, de tout mon cœur, je cherchais à être baptisé du Saint-Esprit, avec les signes qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit, dont le parler en langue, qui est un des signes, et nous prierons ce soir pour que le Saint-Esprit descende sur les personnes. De tout mon cœur, je cherchais, et j'avais peur de ne pas le recevoir. Et lorsqu'on a prié pour moi le lendemain ou le surlendemain de mon baptême, je me suis approché du pasteur tout tremblant. C'était le papa Jean qui a prié pour moi. Et puis à peine quelques secondes de prière, j'ai ressenti une joie extraordinaire sur moi, une joie intense qui me transperçait, et j'ai simplement ouvert ma bouche. Je n'ai pas cherché à contrôler ce qui venait dans ma bouche et j'ai commencé à parler en langue. Mais dans ma démarche avec le Seigneur, je disais, Seigneur, mais moi je veux plus, je veux tout. Est-ce que vous voulez tout du Saint-Esprit? Vous savez, parfois je rencontre des chrétiens qui me disent, mais si je suis baptisé, je suis sauvé, pasteur. Et je dis, oui, c'est ce que la Bible dit. Donc ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, Jésus nous dit, au verset 16, celui qui croira, et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, et par conséquent, qui auront été baptisés. On peut supposer que les gens qui ont cru obéissent à la parole de Jésus, se font baptiser. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quand j'ai commencé à lire cette parole, j'avais une vingtaine d'années à l'époque, je disais, mais Seigneur, alors ça, c'est aussi pour moi. Lorsque je prie pour un malade, j'ai aussi le droit de voir le malade guéri. Lorsque je chasse des démons, lorsque je prie pour chasser des démons, je dois aussi voir des démons chassés. Mais Seigneur, comment faire? Et puis ma réaction de jeune homme, c'était, mais moi je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas un personnage important de l'Église. Et puis en relisant le texte, je me suis rendu compte que Marc 16, cette parole est adressée à tous ceux qui auront cru. Alors je suis allé au travail et je parlais avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, moi je veux faire cette expérience. Et puis j'attendais, je priais, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je ne me souviens plus, mais un jour, une collègue de travail est venue me voir, enfin on discutait ensemble, et dans la discussion, elle me dit qu'elle me raconte qu'elle était malade et que ça allait de moins en moins bien, et qu'elle devait subir certainement une opération chirurgicale. Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, voilà, maintenant, c'est le moment. Il faut que tu lui parles. Et alors là, à ce moment-là, on a toujours de bonnes excuses. Mais non, mais Seigneur, on est au travail, on est à l'usine, je ne peux pas commencer à parler de toi. C'était plutôt par gêne. Mais au bout d'un moment, j'ai obéi à la voix qui était en train de travailler mon cœur. Et j'ai dit à cette jeune femme, je lui dis, mais tu sais, moi je suis chrétien, et dans mon église, eh bien on a l'habitude de prier avec les gens qui sont malades. Et je lui dis, et parfois même ça marche. voyez un peu la foi de canard boiteux que je pouvais avoir. Et puis, je lui ai dit, dans la suite de la conversation, « Bien, si tu veux, on pourrait aller se mettre dans un coin et je prierai discrètement avec toi, si tu es d'accord. » Elle m'a dit « Je suis d'accord. » Et puis, on allait se cacher dans un coin tranquille. On a attendu un temps de pause. Et puis, j'ai prié avec elle, avec toute ma foi de jeune baptisé. Et puis, je lui ai dit « Et maintenant ?» Il faut croire, hein, il faut croire que Dieu va te toucher. Quelques jours après, cette dame me dit, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens de mieux en mieux. Je dois refaire des examens, et effectivement, elle n'avait plus besoin de se faire opérer. Cette fille, plus tard, est devenue chrétienne, elle s'est mariée, elle a quitté la région, mais elle est chrétienne encore aujourd'hui. Et ça a encouragé ma foi de jeune homme. Hein. Où que nous soyons, nous devons mettre en pratique, nous devons demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, moi, je veux vivre ce que tu dis. Seigneur, je veux vivre ce que tu dis dans ta parole. » Mais si on lui demande jamais, si on laisse faire les autres, on ne vivra jamais rien. C'est toujours les autres qui vont faire à notre place. Je me souviens lorsque notre fille Claudia était petite, elle devait se faire opérer de l'appendicite. Et ma femme a été la visiter, bien sûr, à l'hôpital. Et puis, lorsqu'elle rentre dans la chambre à côté, elle entendait une jeune femme pleurer. C'était une jeune maghrébine. Et ma femme va voir cette jeune femme et lui demande pourquoi qu'elle pleure et prend de ses nouvelles. Et cette femme était dans la crainte. Elle dit, on va m'opérer demain matin. J'ai un calcul rénal, mon rein est enflé, il faut opérer d'urgence. Et j'ai des douleurs, j'ai très mal, et j'ai peur. Et ma femme, simplement, parce que le Saint-Esprit l'a poussée à le faire, lui a dit, écoutez, moi je suis chrétienne, et si vous voulez, je peux prier avec vous, comme le dit Jésus. Et cette femme lui a dit, oui, je veux. Et Karine a imposé les mains à cette femme. Parfois, j'entends des sœurs qui me disent, mais nous, on est des femmes, on ne peut pas imposer les mains. Vous avez vu ce qui est écrit dans les paroles de Jésus, Marc 16. Il faut faire la différence entre l'ordre que Paul a établi dans l'Église et notre vie de chrétien, celle que l'on vit tous les jours, à l'extérieur, sur notre lieu de travail, à la maison, avec nos amis, avec nos familles. Nous avons maintes et maintes occasions de glorifier le nom du Seigneur en obéissant simplement à sa parole et en mettant en pratique sa parole. Karine a prié avec cette dame. Le lendemain, elle est retournée à l'hôpital. Cette femme avait été guérie dans la nuit. Elle ne s'est pas fait opérer, elle est rentrée. Elle est même venue à l'église quelques fois, mais la pression familiale a fait que cette femme n'avait plus le droit de venir, elle a été menacée. On ne l'a plus vue pendant des années. Et il y a quelques temps de cela, on était en ville, je ne sais plus pour quelle raison. Je vais très rarement à Mulhouse en ville. Et tout d'un coup, cette femme nous reconnaît et nous appelle. On ne se souvenait plus du tout d'elle, on ne savait plus qui c'était. Et elle nous a dit, vous vous souvenez de moi? C'est moi qui vous avez prié avec moi, je suis venu quelques fois à l'église, j'avais été guéri, je n'ai pas oublié Jésus. Nous devons semer, nous devons obéir à ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Le Saint-Esprit est vivant en nous. C'est à nous de le mettre en pratique, ne soyons pas timides. Si nous voulons faire des expériences avec le Saint-Esprit, il faut que nous agissions. Alors oui, parfois des gens vont se moquer de nous ou nous envoyer balader, ça m'est arrivé souvent. C'est pas marrant, c'est pas facile, mais le Seigneur nous dit que ce genre de choses doit nous rendre heureux. Doit nous rendre heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous rejettera, lorsqu'on vous humiliera. Qui peut donc recevoir le Saint-Esprit? On l'a vu ensemble. Le Saint-Esprit, c'est un don qui se reçoit par la foi. Le livre de Jean, chapitre 7, verset 39, nous le dit explicitement. Étant devenu roi et sacrificateur avec Christ, les croyants reçoivent tous l'onction du Saint-Esprit. Je parle des croyants. Je ne parle pas de ceux qui se disent croyants, mais de ceux qui croient vraiment. On reçoit tous le Saint-Esprit. Alors que produit le Saint-Esprit ? La première œuvre de l'Esprit dans l'homme est de le convaincre de péché. Première chose, Jésus dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Sans cette conviction, nul ne peut sentir le besoin d'un sauveur. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Je lisais un jour l'histoire d'un agriculteur, un homme simple, pauvre, qui un jour va dans son champ et il voit son voisin, un autre agriculteur. Le premier agriculteur est un chrétien, un homme qui aime le Seigneur. Il va dans son champ et l'histoire remonte au siècle dernier où on n'avait pas encore de tracteurs et de matériel sophistiqué. Et il voit son voisin, un paysan voisin, qui est en train de lui voler une partie de sa moisson. Alors sur le coup, il est en colère, et puis il veut aller lui faire sa fête. Mais Dieu lui parle. Et lui dit, laisse-le faire. Et puis il le laisse faire. Mais il rentre chez lui et il dit, mais Seigneur, moi j'ai une famille, j'ai 7 enfants, et ça va me manquer. Il faut vraiment, Seigneur, que tu m'aides. Moi, je veux t'obéir, je veux faire ce que tu me dis, mais il faut que tu m'aides. Et puis, ce paysan prie toute la journée, il est un peu triste dans son âme, et le Seigneur va plus loin, il lui demande de bénir son voisin qui s'appelle Jacob. Bénis-le. Alors, il prie avec difficulté, mais il prie pour Jacob, et il demande, Seigneur, bénis Jacob. Et quand à la fin de la soirée, la fin de la journée arrive, il y a un de ses amis, paysan aussi, qui arrive et lui dit, écoute, moi j'ai fait une très grosse récolte de je ne sais plus ce que c'était, eh bien je t'en donne une partie. Et il était content dans son cœur. Il était tellement content qu'il a été voir Jacob, le voisin qui lui avait volé une partie de sa récolte, et lui dit, Jacob, je t'invite à venir à une évangélisation demain soir dans le village, il y a une évangélisation, je t'invite à venir. Et Jacob, quand il l'a vu arriver devant la porte, il s'attendait au pire, mais lorsqu'il a vu que c'était pour l'inviter à une évangélisation, il s'est senti soulagé, alors il lui a dit, ben, je viendrai. Et Jacob, un peu malgré lui, est allé à cette soirée d'évangélisation. Et le pasteur qui était là prêchait avec force sur Jacob le voleur. C'était le thème de la soirée. Et puis pendant un moment dans la prédication, il s'est mis à crier le pasteur, « Jacob, es-tu là ce soir ?» Et Jacob s'est levé d'un bond, s'est mis à genoux devant, a demandé, « Pardon, je ne recommencerai plus. » Il a donné son cœur à Jésus, il est devenu chrétien. La conviction de péché. Il est également l'esprit de vérité. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 17, il est écrit « L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît même pas. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. » Frères et sœurs, c'est tellement beau de pouvoir vivre dans la vérité, de pouvoir vivre avec la conscience tranquille. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, on est attiré par la vérité. On a envie de vivre dans la vérité. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, on a une conscience en paix, une conscience tranquille. Il est également l'esprit de vie. Romains, chapitre 8, verset 2 nous dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis affranchi de la loi du péché et de la mort. » Je suis libéré de la mort. Je sais dans mon fort intérieur que lorsque ma vie s'arrête, j'irai auprès de mon Père qui m'a préparé une maison. Il m'arrive de pécher, il m'arrive parfois de trébucher, mais là encore, grâce au sang précieux de Jésus-Christ, grâce à mon baptême, je suis mort et ressuscité avec Christ. J'ai obtenu le pardon de mes péchés. Pierre l'a bien dit tout à l'heure, on l'a lu ensemble, il a dit aux Juifs, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Nous sommes affranchis, libérés. C'est l'esprit de la foi. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Lorsque nos cœurs sont remplis de foi, on a envie de partager ce qui est en nous. On a envie de partager les expériences que nous avons faites ou que nous faisons avec le Seigneur. C'est pas vrai, c'est pas comme ça dans vos cœurs. Quand on fait une expérience avec le Seigneur, ça brûle en nous. On a envie de la partager. On a envie que le monde sache ce qui nous est arrivé avec le Seigneur. C'est l'esprit de foi qui est en nous. C'est un esprit d'amour, de force et de sagesse. Dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous n'avons pas à avoir peur lorsque le Saint-Esprit est en nous, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Le Saint-Esprit, parfois, va créer des événements, des situations inattendues, désagréables parfois dans nos vies. Parfois, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est un homme, un jour, qui avait un cheval, et puis le cheval a cassé la barrière, et puis le cheval s'est enfui. Alors les voisins sont venus lui dire « Ah, tu n'as pas de chance !» Alors il les regarde et leur dit « Mais vous n'en savez rien si je n'ai pas de chance !» Pourquoi vous me dites « j'ai pas de chance » ? On ne sait pas. Le cheval a disparu. Effectivement, le lendemain, le cheval est revenu, mais il n'est pas revenu seul. Il est revenu avec 7 chevaux sauvages. Alors les gens sont revenus le voir et lui disent « mais dis donc, tu as de la chance toi !» Et de nouveau, cet homme a dit « mais qu'est-ce que vous en savez si j'ai de la chance ?» On ne sait pas. Le soir même, son jeune fils de 14 ans se fait casser la jambe par un des chevaux sauvages qui était là. De nouveau, les gens sont venus pour lui dire « mais dis donc, tu n'as pas de chance !» Et l'homme de dire « mais on n'en sait rien si j'ai pas de chance !» 2 jours après, l'armée est venue pour réquisitionner tous les jeunes gens du village. Et son fils est resté à la maison parce qu'il avait sa jambe cassée et il a été sauvé de la mort. Aucun jeune homme de ce village n'est rentré au village, tous sont morts à la guerre. Le Saint-Esprit, parfois, crée des situations dans nos vies qu'on peut considérer comme désagréables, mais en finalité, on ne sait pas le plan de Dieu par avance pour nous. Dieu crée parfois des circonstances dans nos vies, et j'ai pu le mesurer très souvent dans mon lieu de travail, très souvent. Un jour, j'ai vécu, je ne sais pas si je vous ai raconté ça, j'ai vécu un moment extraordinaire avant que je sois à plein temps, je travaillais dans une usine et il y a eu un mouvement de grève et c'était très agité et il s'est passé un événement merveilleux. Je priais tous les matins pour mon équipe, j'étais responsable d'une 50aine de personnes et puis quand le mouvement de grève s'est déclenché, l'équipe avant la mienne, tout le monde est parti. L'équipe après la mienne, tout le monde est parti. Et dans mon équipe, il n'y avait que 2 personnes qui sont parties. Donc quasiment toute mon équipe était là. Mais l'usine ne pouvait plus tourner. Mais nous, on était au travail. Enfin, au travail, c'était un grand mot. On faisait rien. On venait au travail, mais on ne pouvait pas travailler. Alors, on était autour d'une table, on discutait. Ça a duré 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis un matin, ça a duré 6 semaines en tout, hein. 6 semaines, des vacances prolongées. Nous, on était payés. Un matin, le grand directeur du centre passe à 5h du matin. Personne ne le connaissait, on ne l'avait jamais vu. Ce genre de personne ne vient jamais dans les ateliers. Il arrive et au moment où il passe devant notre équipe, il nous salue simplement. Et à ce moment-là, à l'intérieur de moi, Une voix me dit, prépare-toi, tu vas rencontrer cet homme. Et puis cet homme fait une cinquantaine de mètres, il se retourne, et puis il me regarde, et il repart de nouveau. Et peut-être 2 heures après, mon téléphone sonne, c'était mon chef, mon responsable, qui me dit, Christian, il faut que tu prennes une voiture, il faut que tu rencontres le directeur, il veut te rencontrer, il a des questions à te poser. J'ai pris une voiture de service, je suis allé au building, et puis je rentre dans le bureau de ce directeur, il me fait asseoir, et puis il me pose la question suivante, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, on m'a dit que les gens qui étaient avec vous ce matin autour de votre bureau, ce sont tous les gens de votre équipe. Alors j'ai dit oui, il me dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment que cela se fait-il que les gens de votre équipe sont restés avec vous? Alors je lui dis non, je pas d'explication logique à vous donner. Il dit mais si, il y a une raison. Qu'est-ce que vous leur avez promis? Je dis mais moi je peux rien leur promettre. Je leur ai rien promis du tout. Mais il y a une raison. Alors je lui dis écoutez, la seule raison que je connaisse va peut-être vous faire sourire, mais voilà, je suis chrétien. Et chaque matin, avant de commencer mon travail, chez moi, je prie et je remets toute mon équipe et toute la journée entre les mains de Dieu. Et là, cet homme a éclaté de rire. Il a éclaté de rire. Moi, j'étais rouge comme une tomate. Et il me dit, mais monsieur, Dieu n'existe pas. Il me dit, je suis physicien nucléaire. Tout s'explique. Et alors c'est comme s'il m'avait piqué au vif. Et je lui ai donné mon témoignage. Je lui ai dit comment je suis devenu chrétien. Je lui ai dit alors expliquez-moi ça. Expliquez-moi que quand on prie avec un malade est guéri. Vous pouvez m'expliquer ça? J'étais dans une espèce de colère intérieure. Et au bout d'un moment, je ne savais plus quoi lui dire. Je me suis arrêté. Il me regarde. Et il me dit comment vous appelez-vous? Ah, je lui dis Christian. Il me dit ah tiens c'est curieux moi aussi. Et il me dit, quel âge avez-vous? Alors je lui donne mon âge, il me dit, ah mais c'est extraordinaire, on est né la même année. Et puis on est né même le même mois, à 3 jours près, on avait le même âge. Et cet homme me dit, mais avec toutes ces coïncidences, on ne peut plus se vouvoyer, on va se tutoyer. J'ai envie de devenir ton ami, il me dit. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il a pris un morceau de papier. Il a écrit un mot, il l'a mis dans une enveloppe, il ne l'a pas fermé l'enveloppe. Il m'a dit, tu donneras ça à ton chef, à ton supérieur. Et puis je suis parti, bien sûr, dès que j'étais derrière la porte, j'ai ouvert la lettre et je regarde. Aujourd'hui, date du dada, hein, 500 francs à l'époque, 500 francs d'augmentation d'un seul coup comme ça, pendant la grève. Cet homme ensuite, pendant des mois et des mois, chaque matin, il venait du building, on allait boire le café ensemble et on discutait des choses du Seigneur. J'ai pas le temps, mais j'ai vécu des choses extraordinaires avec la relation qui a été tissée. Le Saint-Esprit crée des événements qui bouleversent notre vie. Mais le secret, c'est de vouloir vraiment vivre la plénitude du Saint-Esprit. C'est de chercher ce que Jésus nous donne, nous dit. C'est de le vouloir à tout prix et de l'exercer. C'est pas attendre que les choses nous tombent comme ça. Non, on a des choses à faire. C'est d'aller vers les gens. C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est de ne pas avoir peur lorsqu'il y a parfois des situations difficiles. Je vais plus vite pour terminer. Le Saint-Esprit accorde des dons que vous trouverez dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8 où nous avons là une liste de dons qui sont donnés par le Saint-Esprit. Mais pour moi cette liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres dons encore que le Saint-Esprit donne à chacune, chacun. Il y a des personnes même qui ont des dons manuels qui peuvent mettre au service du Seigneur pour la gloire du Seigneur, pour que le Seigneur soit glorifié, pour que le témoignage de Jésus-Christ passe partout. Le Saint-Esprit donc donne des dons, et je voudrais dire encore, peut-on perdre le Saint-Esprit? Peut-on perdre le Saint-Esprit? Oui, on peut perdre le Saint-Esprit. Il y a des exemples dans la Bible. Il y a l'exemple de Saül qui était rempli de l'onction du Saint-Esprit et qui l'a perdu à cause de sa désobéissance. Il y a l'exemple de Samson. Tout le monde connaît l'histoire de Samson parce qu'elle est extraordinaire, la puissance de Samson. Mais Samson était béni, Dieu était patient avec lui. L'Esprit de Dieu, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu était sur Samson. Mais un jour, à force de tirer sur la corde, c'était le cas de le dire pour Samson, à force de tirer sur la corde, la patience du Seigneur a pris fin. Et brutalement, sans prévenir, l'Esprit de Dieu s'est retiré de Samson. Et vous connaissez l'histoire. Samson s'est fait prendre. Est-ce qu'on peut retrouver le Saint-Esprit ? Oui, on peut retrouver le Saint-Esprit. Pour le retrouver, il faut demander pardon à Dieu et revenir à lui de tout son cœur, de toute sa force, abandonnant ce qui nous a fait pécher, ce qui a fait que le Saint-Esprit nous a quittés de tout notre cœur. Et c'est David qui va crier dans le psaume 51, verset 13, il va crier « Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il était conscient de la présence du Saint-Esprit. Sommes-nous conscients de la présence du Saint-Esprit parmi nous, dans notre vie? Parfois, j'ai l'impression qu'on n'est pas conscient de la personne, de la présence de la personne du Saint-Esprit dans notre vie. Soyons conscients de sa présence permanente. Pour conclure, je dirais simplement, recherchons de tout notre cœur la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et nous ne pouvons pas vivre une vie de chrétien heureuse sans lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Prions un instant. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance. Nous voulons ensemble te dire merci parce que tu es fidèle, juste, saint et bon. Seigneur, tu nous invites ce soir. Seigneur, mon cœur est dans la joie de voir ce que je vois en ce moment au travers des différents baptêmes, que ce soit ici, tous ces jeunes gens qui sont nés dans l'Église, qui ont grandi ici dans l'Église et qui se sont donnés à toi. Pour toutes les personnes qui t'ont découvert, Seigneur, il y a peu de temps et qui se sont engagées également vers toi ici. Je te loue, Seigneur, pour ces baptêmes en Italie, Seigneur, qui ont encouragé l'Église et qui ont interpellé des gens qui n'ont jamais rien vu de tel, Seigneur, sur cette plage. Je te loue pour les 50 baptêmes de dimanche, de vendredi prochain, Seigneur, à Tizi Ouzou. Je te bénis, Seigneur, pour ça. Je te bénis pour tous ces le souffle de ton esprit, Seigneur, sur nos vies, dans le monde actuellement. Seigneur, nous voyons que les choses s'accélèrent. Et ce soir, Seigneur, nous savons que tu es là, tu es présent dans ce lieu. Et nous voulons vivre encore une visitation de ta part. Viens nous visiter ce soir. Viens nous visiter, Saint-Esprit, que ce soir encore des personnes soient baptisées du Saint-Esprit, que, Seigneur, des personnes reçoivent le don du parler en langue. Nous te le demandons, Seigneur Jésus, que des personnes soient baptisées, que des personnes parlent en langue, que des personnes soient guéries dans leur âme par la puissance, par la présence du Saint-Esprit, que, Seigneur, des chaînes tombent par la puissance du Saint-Esprit, que des démons soient chassés ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous savons que ton autorité, tu nous as dit qu'il est préférable, Seigneur Jésus, tu nous as dit qu'il est préférable que je m'en aille afin que le Consolateur, l'Esprit Saint, vienne. Seigneur, ce soir, tu vas encore nous bénir et nous remplir. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Amen. Amen.
Enseignemoi.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.